Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Supplément aux mémoires. Texte retranché. Préface testamentaire. Sicut nubes, quasi naves, velut umbra. Job. Paris, 1er décembre 1833. Comme il m'est impossible de prévoir le moment de ma fin, comme à mon âge les jours accordés à l'homme ne sont que des jours de grâce, ou plutôt de rigueur, je vais, dans la crainte d'être surpris, m'expliquer sur un travail destiné à tromper pour moi l'ennui de ces heures dernières et délaissées que personne ne veut et dont on ne sait que faire. Les mémoires, à la tête desquelles on lira cette préface, embrassent ou embrasseront le cours entier de ma vie. Ils ont été commencés dès l'année 1811 et continués jusqu'à ce jour. Je raconte dans ce qui est achevé et raconterai dans ce qui n'est encore qu'ébauché mon enfance, mon éducation, ma jeunesse, mon entrée au service, mon arrivée à Paris, ma présentation à Louis XVI, les premières scènes de la Révolution, mes voyages en Amérique, mon retour en Europe, mon émigration en Allemagne et en Angleterre, ma rentrée en France sous le consulat, mes occupations et mes ouvrages sous l'Empire, ma course à Jérusalem, mes occupations et mes ouvrages sous la Restauration, enfin l'histoire complète de cette Restauration et de sa chute. J'ai rencontré presque tous les hommes qui ont joué de mon temps un rôle, grand ou petit, à l'étranger et dans ma patrie, depuis Washington jusqu'à Napoléon, depuis Louis XVIII jusqu'à Alexandre, depuis Pie VII jusqu'à Grégoire XVI, depuis Fox, Bjork, Pitt, Sheridan, Londonderry, Capodestrias, jusqu'à Malesherbes, Mirabeau, etc. Depuis Nelson, Bolivar, Mehemet, Pacha d'Égypte, jusqu'à Suffren, Bougainville, Lapérouse, Moreau, etc. J'ai fait partie d'un triumvirat qui n'avait point eu d'exemple. Trois poètes opposés d'intérêts et de nations se sont trouvés presque à la fois ministres des Affaires étrangères, moi en France, M. Canning en Angleterre, M. Martinez de la Rosa en Espagne. J'ai traversé successivement les années vides de ma jeunesse, les années si remplies de l'ère républicaine, des fastes de Bonaparte et du règne de la légitimité. J'ai exploré les mers de l'Ancien et du Nouveau Monde et foulé le sol des quatre parties de la terre. Après avoir campé sous la hutte de l'Iroquois et sous la tente de l'Arabe, dans les wigwams des Hurons, dans les débris d'Athènes, de Jérusalem, de Memphis, de Carthage, de Grenade, chez le Grec, le Turc et le Maure, parmi les forêts et les ruines. Après avoir revêtu la casaque de peau d'ours du sauvage, et le caftan de soie du Mamelouk, après avoir subi la pauvreté, la faim, la soif et l'exil. Je me suis assis, ministre et ambassadeur brodé d'or, bariolé d'insignes et de rubans, à la table des rois, aux fêtes des princes et des princesses, pour retomber dans l'indigence et essayer de la prison. J'ai été en relation avec une foule de personnages célèbres dans les armes, l'Église, la politique, la magistrature, les sciences et les arts. Je possède des matériaux immenses, plus de 4000 lettres particulières, les correspondances diplomatiques de mes différentes ambassades, celles de mon passage au ministre des Affaires étrangères, entre lesquelles se trouvent des pièces à moi particulières, uniques et inconnues. J'ai porté le mousquet du soldat, le bâton du voyageur, le bourdon du pèlerin. Navigateur, mes destinées ont eu l'inconstance de ma voile. Alcyon, j'ai fait mon nid sur les flots. Je me suis mêlé de paix et de guerre. J'ai signé des traités, des protocoles et publié, chemin faisant, de nombreux ouvrages. J'ai été initié à des secrets de parti, de cour et d'État. J'ai vu de près les plus rares malheurs, les plus hautes fortunes, les plus grandes renommées. J'ai assisté à des sièges, à des congrès, à des conclaves, à la réédification et à la démolition des trônes. J'ai fait de l'histoire et je pouvais l'écrire. Et ma vie, solitaire, rêveuse, poétique, marchait au travers de ce monde de réalité, de catastrophe, de tumulte, de bruit, avec les fils de mes songes, Chactas, René, Eudore, Abenhamet, avec les filles de mes chimères, Atala, Amélie, Blanca, Véléda, Simodocée. En dedans et à côté de mon siècle, j'exerçais peut-être sur lui, sans le vouloir et sans le chercher, une triple influence religieuse, politique et littéraire. Je n'ai plus autour de moi que 4 ou 5 contemporains d'une longue renommée. Alfieri, Canova et Monti ont disparu. De ces jours brillants, l'Italie ne conserve que Pindemonte et Manzoni. Pellico a usé ses belles années dans les cachots du Spielberg. Les talents de la patrie de Dante sont condamnés au silence ou forcés de languir en terre étrangère. Lord Byron et M. Canning sont morts jeunes. Walter Scott nous a laissés. Goethe nous a quittés remplis de gloire et d'années. La France n'a presque plus rien de son passé si riche. Elle commence une autre ère. Je reste pour enterrer mon siècle comme le vieux prêtre qui, dans le sac de Béziers, devait sonner la cloche avant de tomber lui-même lorsque le dernier citoyen aurait expiré. Quand la mort baissera la toile entre moi et le monde, on trouvera que mon drame se divise en 3 actes. Depuis ma première jeunesse jusqu'en 1800, j'ai été soldat et voyageur. Depuis 1800 jusqu'en 1814, sous le consulat et l'Empire, ma vie a été littéraire. Depuis la Restauration jusqu'aujourd'hui, ma vie a été politique. De mes 3 carrières successives, je me suis toujours proposé une grande tâche. Voyageur, j'ai aspiré à la découverte du monde polaire. Littérateur, j'ai essayé de rétablir la religion sur ses ruines. Homme d'État, je me suis efforcé de donner au peuple le vrai système monarchique représentatif, avec ses diverses libertés. J'ai du moins aidé à conquérir celles qui les vaut, les remplace et tient lieu de toute constitution. La liberté de la presse. Si j'ai souvent échoué dans mes entreprises, il y a eu chez moi faillance de destinée. Les étrangers qui ont succédé dans leurs desseins furent servis par la fortune. Ils avaient derrière eux des amis puissants et une patrie tranquille. Je n'ai pas eu ce bonheur. Des auteurs modernes français de ma date, je suis quasi le seul dont la vie ressemble à ces ouvrages. Voyageur, soldat, poète, publiciste, c'est dans les bois que j'ai chanté les bois, sur les vaisseaux que j'ai peint la mer, dans les camps que j'ai parlé des armes, dans l'exil que j'ai appris l'exil, dans les cours, dans les affaires, dans les assemblées, que j'ai étudié les princes, la politique, les lois et l'histoire. Les orateurs de la Grèce et de Rome furent mêlés à la chose publique et en partagèrent le sort. Dans l'Italie et en Espagne de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, les premiers génies des lettres et des arts participèrent au mouvement social. Quelles orageuses et belles vies que celles de Dante, de Tasse, de Camoens, d'Ercilia, de Cervantes! En France, nos anciens poètes et nos anciens historiens chantaient et écrivaient au milieu des pèlerinages et des combats. Thibaut, comte de Champagne, Villehardouin, Joinville, empruntent les félicités de leur style des aventures de leur carrière. Froissart va chercher l'histoire sur les grands chemins et l'apprend des chevaliers et des abbés qu'il rencontre, avec lesquels il chevauche. Mais à compter du règne de François Ier, nos écrivains ont été des hommes isolés, dont les talents pouvaient être l'expression de l'esprit, non des faits de leur époque. Si j'étais destiné à vivre, je représenterais dans ma personne, représenté dans mes mémoires, les principes, les idées, les événements, les catastrophes, l'épopée de mon temps, d'autant plus que j'ai vu finir et commencer un monde, et que les caractères opposés de cette fin et de ce commencement se trouvent mêlés dans mes opinions. Je me suis rencontré entre les deux siècles comme au confluent de deux fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où j'étais né, et nageant avec espérance vers la rive inconnue où vont aborder les générations nouvelles. Les mémoires, divisées en livres et en parties, sont écrites à différentes dates et en différents lieux. Ces sections amènent naturellement des espèces de prologues qui rappellent les accidents survenus depuis les dernières dates et peignent les lieux où je reprends le fil de ma narration. Les événements variés et les formes changeantes de ma vie entrent ainsi les uns dans les autres. Il arrive que, dans les instants de mes prospérités, j'ai à parler du temps de mes misères, et que, dans mes jours de tribulation, je retrace mes jours de bonheur. Les divers sentiments de mes âges divers, ma jeunesse pénétrant dans ma vieillesse, la gravité de mes années d'expérience attristant mes années légères, les rayons de mon soleil, depuis son aurore jusqu'à son couchant, se croisant et se confondant, comme les reflets épars de mon existence, donnent une sorte d'unité indéfinissable à mon travail. Mon berceau a de ma tombe a de mon berceau. Mes souffrances deviennent des plaisirs, mes plaisirs des douleurs, et l'on ne sait si ces mémoires sont l'ouvrage d'une tête brune ou chenue. Je ne dis point ceci pour me louer, car je ne sais si cela est bon. Je dis ce qui est arrivé, sans que j'y songeasse, par l'inconstance même des tempêtes déchaînées contre ma barque, et qui souvent ne m'ont laissé pour écrire tel ou tel fragment de ma vie que l'écueil de mon naufrage. J'ai mis à composer ces mémoires une prédilection toute paternelle. Je désirerais pouvoir ressusciter à l'heure des fantômes pour en corriger les épreuves. Les morts vont vite. Les notes qui accompagnent le texte sont de trois sortes. Les premières, rejetées à la fin des volumes, comprennent les éclaircissements et pièces justificatives. Les secondes, au bas des pages, sont de l'époque même du texte. Les troisièmes, pareillement au bas des pages, ont été ajoutées depuis la composition de ce texte et portent la date du temps et du lieu où elles ont été écrites. Un an ou deux de solitude dans un coin de la terre suffirait à l'achèvement de mes mémoires. Mais je n'ai eu de repos que durant les 9 mois où j'ai dormi la vie dans le sein de ma mère. Il est probable que je ne retrouverai ce repos avant naître que dans les entrailles de notre mère commune, après mourir. Plusieurs de mes amis m'ont pressé de publier à présent une partie de mon histoire. Je n'ai pu me rendre à leurs vœux. D'abord, je serai malgré moi moins franc et moins véridique. Ensuite, j'ai toujours supposé que j'écrivais assis dans mon cercueil. L'ouvrage a pris de là un certain caractère religieux que je ne lui pourrais ôter sans préjudice. Il m'en coûterait d'étouffer cette voix lointaine qui sort de la tombe, et que l'on entend dans tout le cours du récit. on ne trouvera pas étrange que je garde quelques faiblesses, que je sois préoccupé de la fortune du pauvre orphelin, destiné à rester après moi sur la terre. Si j'ai assez souffert dans ce monde pour être dans l'autre une ombre heureuse, un peu de lumière des Champs-Élysées, venant éclairer mon dernier tableau, servirait à rendre moins saillants les défauts du peintre. La vie me sied mal, la mort m'ira peut-être mieux. Saint-Malo. Après la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, la Trémoille mit le siège devant Saint-Malo, qui tenait pour le parti du duc d'Orléans. Il dressa ses batteries sur la grève de Saint-Servan. La mer envahit cette grève deux fois le jour. Les assiégeants couvraient leurs canons de peaux et de cuir graissés quand le flot s'était retiré. Le feu des batteries inondées recommençait sans que l'eau eût mouillé la poudre et avarié les pièces. En vertu du traité de Sablé, Saint-Malo resta engagé à la couronne. Il fut réuni à la France avec le reste de la Bretagne par les mariages successifs de Charles VIII et de Louis XII avec la duchesse Anne. La duchesse reine, ayant eu à se plaindre de l'esprit d'indépendance des Malouins, augmenta les fortifications du château d'un bastion et de deux tours. Sur les plus grosses, elle fit écrire ces mots « Quiconque en grogne, c'est mon plaisir ». De là, la tour fut appelée en français bretonnant « Quiconque-grogne ». L'autre tour est connue sous le nom de la « Générale ». Entre parenthèses, ce même fait est raconté pour un autre lieu. Pendant les guerres de la Ligue, Saint-Malo reprit sa liberté après la visite que lui fit Charles IX, le 24 de mai 1570. Elle ne se déclara ni pour Henri III, ni pour Henri IV, ni pour le duc de Mercœur. En 1590, le comte de Fontaine, occupant le château au nom du roi, les habitants de la ville conspirent. Ils gagnent deux soldats du comte qui laissent tomber pendant la nuit, du haut de la générale, une corde attachée aux aisselles d'une couleuvrine. À l'aide de cette corde, 50 jeunes gens, armés, s'introduisent dans le château, tuent le gouverneur, qui parut à une fenêtre avec une lanterne, et font la garnison prisonnière. Les Malouins, jusqu'à la dernière victoire de Henri IV, restèrent leurs propres maîtres et se conduisirent, disent les chroniques du temps, en bons républicains. Entre parenthèses, on montre encore la maison où se réunirent les hardis conjurés qui escaladèrent le château. Le revenant. Depuis le temps de Charles de Blois, le Saint, et de Jeanne de Montfort, la Boiteuse, tradition d'une aventure était conservée en Bretagne de grand-mères en grand-mères. Madame de Chateaubriand la racontait de manière à faire dresser les cheveux sur le front. Elle y mêlait des requiem, des dies irae et des de profundis incroyables. L'an de grâce 1350. Le samedi devant l'Aether Jérusalem, fut fait en Bretagne, au chêne de Mivoix, la bataille de 30 Anglais contre 30 Bretons. De sueur et de sang la terre rosoya, à ce bon samedi beau manoir se jeûna. Grande soif eut le baron, à boire demanda. Messire Geoffroy de Boves tantôt répondua, bois ton sang, beau manoir, la soif te passera. Or, le sire de Beaumanoir et Johan de Tinténiac avaient guerroyé les Anglais dans les 52 fiefs de la terre de Combourg. On montre partout les témoins de leur prouesse, entre autres une roche appelée la Roche Sanglante, à l'orée de la lande de Meillac. Un jour, ayant quitté son frère d'armes, Tinténiac s'enforesta. Il arriva avec son écuyer par la chaussée d'un étang aux murs ébréchés d'une ancienne abbaye. Il heurte de sa lance une porte crépite de lierre où se voyaient encore quelques plumes d'un oiseau de proie cloué là. La porte cède au choc et le banneret chevauche dans une cour qu'environnaient des granges dont les lucarnes étaient bouchées avec des plâtras décollés. Johan saute en bas de son palefroy et le tenant par la bride va droit à une autre porte. les battants de celle-ci étaient renforcés d'un semis de chevilles de fer. Le long des linteaux descendait une chaîne qui s'emboutait à un pied de biche. Tintenac tira cette chaîne. Elle secoua une sonnette sourde et fêlée. Quelqu'un s'avance à pas traînants dans l'intérieur. Un cliquetis de clé se fait entendre. Deux verrous tournent, la porte entrebâille avec effort. Un ermite blanchi d'âge et qui semblait tomber en poussière se présente. « Beau fils, soyez les bienvenus, cette vesprée de la Toussaint. Mais jeûnez, il vous faudra. Nul qui vit ne mange séant. Quant au logis, point n'en chômerez si vous savez dormir aux étoiles. Les Anglais ne laissèrent ici que les murs. Les pères ont été massacrés. Je suis resté seul pour garder les morts. C'est demain leur jour. » La voix, les mouvements, la pâleur, les regards du moine avaient du surnaturel, comme je ne sais quoi qui a été. Ses lèvres ne remuaient point lorsqu'il parlait, et son haleine glacée sentait la terre. Tintenac et le damoiselle entrèrent dans le cloître. Le jeune écuyer attache les chevaux à un pilier et met devant eux l'herbe rêche qu'il fauche avec son épée parmi les pierres sépulcrales. Le religieux, psalmodiant à miserere, conduit Sir Johan au dortoir de l'infirmerie. Salle déserte, hantée du vent, où le concierge des trépassés s'était ménagé un abri dans le coin d'un foyer immense. Le moine allume une aiguillette de résine qu'il insère dans un bois fendu, fiché à la paroi de la cheminée. L'écuyer déterre un tison assoupi sous les cendres, le couvre d'un fagot de ramées vertes et mouillées qui suaient leur sève avec bruit, et dont la flamme mourait et renaissait dans une grosse fumée. La tempête et la nuit étaient descendues, la pluie battait les débris du monastère. On entendait les vagissements lointains des décédés. L'écuyer s'endormit, assis sur une escabelle, près du feu qui brûlait petitement. Le chevalier disait son chapelet en comptant les dizaines avec son doigt sur les entaillures du pommeau de son épée. Le frère, placé en face de lui, alterna d'abord les Ave Maria, puis il se tut. Johan lève les yeux. Il aperçoit au lieu du solitaire un fantôme qui le regardait. Une tête de mort hochait dans l'enfoncement d'un froc, et deux bras décharnés sortaient des larges manches d'une robe monacale. Le squelette fait signe à Tintenac de le suivre. L'intrépide champion se lève et le suit. Ils franchissent, sur des solives disjointes, tremblantes et demi-brûlées, des bâtiments charbonnés par les flammes qui en dévorèrent les toitures, les planchers et les lambris. Ces décombres s'allaient appuyer contre une église dont la masse gothique se dessinait en noir sur une brume blafarde. Le chevalier et son guide pénètrent dans la basilique par la crevasse d'un mur lézardé. Ils traversent un labyrinthe de colonnes qui, tour à tour, sortaient de l'ombre à la lueur phosphorique que le spectre passant émanait. Quelque chose gémissait sous les voûtes et tirait de temps en temps des glas de la cloche. Les vitraux coloriés qui pendaient à leurs plombs rompus laissaient entrer pêle-mêle les feuilles séchées de la forêt. Le fantôme s'arrête devant un cercueil à l'ouverture d'un reliquaire qui conduisait au caveau funèbre creusé sous le beffroi. Il montre à Johan l'escalier. Johan pose le pied sur la marche supérieure, étend la main dans l'obscurité, tâte les murs froids, moites et rampants qui lui servent à tournoyer les degrés. Le spectre descend après et lui interdit le retour. Le reste de l'histoire est perdu. Madame de Chateaubriand était femme à suppléer le texte et à remplir très bien la lacune. Mais elle avait trop de conscience pour altérer la vérité et pour interpoler un document authentique. Les œuvres des nourrices bretonnes, comme les annales de Tacite, ont leur fatal caetera desunt.